dans le cadre de la semaine de la presse et des médias à l'école, nous sommes en compagnie d'Hugo qui est venu nous parler de son projet 4L Trophy. Donc tout d'abord, peux-tu nous expliquer en quelques mots en quoi consiste ce projet du 4L Trophy ?
Alors le premier but du 4L Trophy, c'est d'abord un raid humanitaire. Et le but étant de ramener des fournitures scolaires aux élèves, aux enfants du Maroc, qui sont un petit peu en pénurie à ce niveau-là. Et ensuite, c'est un raid qui permet beaucoup de convivialité et d'entraide entre tous les équipages qui sont âgés de 18 à 28 ans.
Pourquoi avez-vous donc eu envie de se lancer dans cette aventure et quels ont été les critères pour y parvenir ?
Alors pour ma part, j'ai voulu participer à cette aventure car mon cousin qui l'a fait dans les années précédentes est revenu avec de très très bons souvenirs et ça m'a donné envie de le faire. Et en ce qui concerne Louis, qui est mon coéquipier, il est passionné de mécanique automobile et ça lui faisait donc très plaisir de participer à ce projet. Il faut savoir que Louis, je l'ai rencontré en seconde au lycée à l'Institut d'Anchin. Et depuis ce temps-là, voilà, c'est mon meilleur ami. Aujourd'hui, je suis en Bac plus 2, en deuxième année de BTS. Donc voilà, on va participer à cette aventure ensemble.
Connaissez-vous déjà précisément le trajet que vous allez effectuer tout au long de votre aventure ?
Alors le trajet, on va partir environ d'Arras, évidemment, pour descendre toute la France. On ne connaît pas le trajet exact puisqu'on va se suivre à plusieurs équipages, le but étant de rouler ensemble du nord de la France jusqu'à Biarritz. Et ensuite, le départ officiel, c'est Biarritz et on traverse l'Espagne. Mais je vous avoue que je n'ai pas pris le trajet par cœur. On aura des cartes au départ qui nous permettront de suivre le trajet. Et puis bah, pour le désert, ce sera avec la carte et la boussole uniquement.
Donc j'imagine que pour cette aventure, vous avez dû vous procurer une 4L et la préparer. Donc, est-ce que vous avez rencontré des problèmes ?
Alors évidemment, on a rencontré quelques soucis. C'est des voitures qui ont presque 40 ans. Pour notre part, elle est de 1983. Donc c'est sûr que c'est des voitures qui ont beaucoup été utilisées et c'était des voitures tout terrain, si je puis dire. D'autant que nous, c'est une fourgonnette. Il y avait aussi des modèles berlines. Et les fourgonnettes étaient utilisées pour toute épreuve. La première contrainte qu'on a rencontrée, c'est notamment qu'on a dû changer le châssis de la voiture. Donc c'est quand même un gros point, puisque c'est la base du projet. Et ensuite, on a dû changer des pièces et refaire des parties du moteur, puisqu'on va quand même solliciter fortement son utilisation. Donc c'était important d'avoir des pièces de bonne qualité.
Pour la préparation de votre voiture et notamment celle du châssis, est-ce que vous avez reçu des aides de mécaniciens ou de garagistes ?
Du tout, on s'est débrouillé nous-mêmes. On a retrouvé un châssis au garage Renault de Haute-Aven, que je remercie d'ailleurs, puisque ça nous a permis évidemment d'avancer assez vite. On a dû faire quelques modifications et faire face à quelques changements puisque les châssis n'étaient pas exactement identiques, mais on a tout fait tout par nous-mêmes, tout ce qui concerne toute la voiture, toute la carrosserie, simplement la peinture que l'on n'a pas fait nous-mêmes, on a fait faire par un peintre que je remercie également. Et pour le moteur, on s'est fait aider par un ancien mécano d'une entreprise qui s'occupait de moteurs, donc on le remercie fortement aussi de son aide.
Durant votre aventure, vous allez vous retrouver donc dans le désert marocain. Est-ce que vous serez accompagné ou alors vous allez devoir vous débrouiller tout seul ?
Alors tous les matins et tous les soirs, il y a des petits endroits pour se rejoindre avec de nombreux équipages. Il faut savoir qu'on est à peu près 1500 voitures à participer tous les ans, avec deux personnes par voiture, puisque c'est des équipages de deux maximum et minimum d'ailleurs. Et pour le midi, on doit se débrouiller, que ce soit pour manger ou tout ce qu'il faut, tout du long de la journée. Sinon, on a une équipe technique qui nous suit si on a des petites casses qui nous permettent de tenir la journée pour réparer au soir ou le matin avant de partir, ainsi que pour faire le plein d'essence. Mais la journée, on doit être autonome.
Avec ce contexte particulier et à cause de la crise de la Covid-19, l'édition de 2022 a dû être décalée en mai au lieu de début février. Donc est-ce que ce report a des répercussions pour vous ?
Alors des répercussions pour nous, principalement au niveau des études, je dirais, puisque le mois de février était mieux placé pour nous. Cependant, c'est un projet qu'on prépare depuis un an, donc on a fait le choix tous les deux de continuer cette aventure et de ne pas abandonner du fait que ce soit décalé. C'est malheureusement ce que de nombreux équipages ont dû faire à cause de leurs examens qui ont lieu en mai. Mais nous, on a continué et ça nous permet de nous préparer justement encore mieux avant de partir et de peaufiner les détails.
Qu'est-ce que vous pensez que cette expérience va vous apporter dans votre vie ?
C'est une expérience humanitaire unique. Pour ma part, je suis jamais parti à l'étranger. Je suis jamais parti hors Europe. Donc là, le Maroc, pour Louis, ce ne sera pas la première fois, mais pour moi, oui, ça va me permettre de découvrir de nouvelles choses. Et aujourd'hui, les choses en France qui nous paraissent basiques, c'est-à-dire avoir une trousse complète et de quoi écrire, pour les enfants là-bas, ce n'est pas forcément évident. Donc c'est extrêmement important et touchant. J'ai hâte de voir dans la vie réelle ce que c'est le bonheur des enfants qui reçoivent les fournitures.
C'était donc Hugo qui est venu nous présenter son projet du 4L Trophy, qui débutera dans un peu plus d'un mois. On lui souhaite une bonne aventure. Un sujet réalisé par Clara, élève du lycée Baudimont, dans le cadre de la semaine de la presse et des médias à l'école.
Bonjour à tous, je suis Julie,
moi Axel
et moi Marie.
Nous faisons partie de l'option Infocom au lycée Baudimont.
Et c'est dans ce cadre que nous participons à la semaine de la presse et des médias à l'école.
Nous allons interviewer Max Keva, le président Kiwanis Ara Citadel, qui va nous présenter son association ainsi que leur prochaine action, le gala de charité qui va se dérouler le 18 juin.
Eh bien bonjour, donc je me présente, Max Keva, président du Kiwanis Ara Citadel. Le Kiwanis a vu le jour aux États-Unis en 1915. Alors il vient d'un nom indien. Alors c'est un peu compliqué, ça veut dire non-Kiwanis et ça veut dire nous avons plaisir à partager. Et le but du Kiwanis, notre cible, c'est tous les enfants et les jeunes âgés de 0 à 18 ans, qu'ils soient dans l'handicap ou pas. On mène des actions sociales pour récompenser un petit peu ces jeunes.
D'où vient le courant Kiwanis ?
Le Kiwanis a vu le jour en Europe en 1963 et est arrivé en France en 1965. Aujourd'hui, le Kiwanis compte en France 3700 membres. Nous distribuons en action sociale à peu près 24 millions d'euros par an. Ça rassemble des hommes et des femmes. Il n'y a pas d'âge limite pour y rentrer ni en sortir. Donc c'est vraiment un club service envers les jeunes et les enfants.
Au niveau local, qui a créé votre association ?
Ça a été créé à l'époque de tête. Son nom, c'était Jean Lelon, qui a créé donc en 2009 le club Kiwanis. Au niveau masculin, le club d'Arras est composé de 28 membres et le club féminin est composé de 20 membres.
Quand est-ce que vous vous êtes impliqué dans cette association et quel est votre rôle ?
Alors, moi, j'y suis arrivé au Kiwanis en 2011. J'ai eu un peu un parcours atypique. J'ai eu la chance de pouvoir aller directement au Kiwanis National et j'y ai passé à peu près 6 ans. Je suis allé jusqu'au Kiwanis Europe, donc ce qui m'a permis de voyager un petit peu. J'ai fait également une année à l'international. Et aujourd'hui, j'ai pris le poste de la présidence sarrageoise.
Pourquoi avez-vous choisi de faire partie de cette association ?
Le Kiwanis m'a séduit parce qu'on continue à s'adresser à des jeunes. Des actions sont proposées par des membres. On a aussi des grandes actions internationales. Et au niveau local, on mène des actions. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, notre club masculin donne en règle générale, en moyenne, aux alentours de 25 000 euros tous les ans d'action sociale.
Comment fait-on pour intégrer l'association si on veut vous rejoindre ?
Il faut être volontaire. Ça, c'est important. Et on fonctionne comme tous les clubs services qu'on appelle par le parrainage. Il n'y a pas de restriction par rapport au nombre de personnes, par rapport à la catégorie socio-professionnelle. Ce qui compte, c'est d'être motivé.
Je sais qu'il y a un club homme et un club femme. Quelles actions ont été réalisées cette année dans l'un et l'autre club ?
Alors, les filles sont très performantes par rapport à nous, parce qu'elles distribuent aussi à peu près pas loin de 15 à 20 000 euros par an. Elles font une action tous les ans qui s'appelle les pommes. Elles vendent des pommes, je ne sais plus combien de tonnes, hein, c'est énorme, hein, qui leur apportent de l'argent, et cet argent est redistribué pour la mucoviscidose. Elles font d'autres actions, là elles vont faire bientôt ce qu'on appelle le Kiwani Dance. Alors nous, on a des actions un peu plus importantes, donc on en a moins. Donc, on a eu deux grosses actions. Il y a eu la Covid. On s'est dit, on ne peut pas rester les bras croisés. On a lancé un projet national qui était en interne, en réalisant une petite vidéo de 4 minutes. Chaque ville devait présenter sa ville, ses actions, tout ça sous un thème musical qui s'appelait Jérusalemma, avec la chorégraphie, et mettre en valeur cette danse par des jeunes. Et c'était un challenge, en fait. Donc, il y a eu 3 vainqueurs. Ensuite, on a fait une BD sur la malbouffe. Et là, tous les ans, à Arras, on organise une soirée de gala caritative. Hein, donc, c'est une soirée qui met en valeur nos partenaires. On tourne entre 250 et 300 convives. Donc là, malheureusement, pendant 2 ans, on n'a rien fait. Et là, on est content de pouvoir renouer avec ça. Ça sera le 18 juin. Et le thème, c'est « Fêtons l'été ». On amène aussi des animations de jeunes lors de cette soirée. Donc, je ne vais pas tout vous dévoiler parce que tout n'est pas bouclé.
Où est-ce qu'il se déroule le gala cette année ?
Alors, cette année, le gala va se dérouler à l'Aquarium, qui est l'hôtel qui se trouve, un grand hôtel à Fresnes-lès-Montauban. Parce que c'est un des établissements qui peut recevoir cette capacité de personnes. Et le prix de la soirée de gala est de 80 euros. Hein, c'est all inclusive, c'est-à-dire boisson, repas, animation, danse. On espère que les gens seront contents de revenir, parce qu'on n'est quasi plus que le seul club service à organiser une soirée de gala.
Que se passe-t-il durant le gala ?
Les gens, on les invite parce qu'on sait qu'ils aiment bien manger, faire la fête, s'amuser, prendre du bon temps. C'est aussi un moment de convivialité, que les gens puissent échanger. Ça nous permet aussi de présenter notre club au grand public et nos actions, tout en faisant participer, mais je ne peux pas vous le dévoiler aujourd'hui, les animations, il y en aura 2, où on fait intervenir des groupes de jeunes au départ de la soirée. Donc c'est en cours de négociation. Et ensuite, c'est une soirée, je vous dis, conviviale. Donc c'est des tables rondes de 10-12 personnes, avec de la bonne musique, etc. Donc les gens, ils viennent pour se détendre. Et en plus, ce qui est sympa, on sera quand même au bord de l'été, 18 juin, 21 juin, il n'y a pas loin. Hein. Bon. Donc en principe, on espère que le temps sera là pour pouvoir au moins prendre le cocktail d'arrivée à l'extérieur sous le soleil. Mais bon, voilà, on croise les doigts. Hein. Et puis tous nos partenaires qui nous ont aidés, qui tous les ans nous donnent de l'argent. Et cet argent-là, il va nous servir pour l'année à distribuer cet argent à toutes les actions sociales dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Quel est votre objectif de récolte de dons ?
On a voulu jouer pédale douce cette année, puisque pendant 2 ans, on n'a rien fait. Donc, on va dire qu'on va prendre cette année ce que les partenaires vont bien vouloir nous donner. On ne fixe pas de montant. Effectivement, on aimerait bien récolter au moins 20 000 ou 25 000 euros. S'il y a plus, tant mieux, parce que s'il y a plus, on pourra distribuer plus. D'accord ? Et s'il y a moins, on distribuera moins.
Et votre gala, c'est un événement où tout le monde peut venir ou bien
sûr, oui. Alors, c'est sur invitation, bien sûr, parce qu'il faut que les gens répondent. Hein. C'est pas open bar ouvert. C'est quand même un repas de qualité, avec des boissons de qualité. Tout est au top, en fait. D'accord ? La déco, tout va ensemble. D'accord ? Donc, on va lancer sur tous les réseaux sociaux, tous nos contacts par email, une pré-invitation qui va dire aux gens, hop, save the date, comme on dit en anglais, hein, prévoyez la date du 18 juin. Et ensuite, ils recevront un mois après une autre invitation où là, ils pourront s'inscrire en ligne avec leurs amis. Donc, de bien, on ne peut pas aller au-delà de 300 couverts.
Combien de temps ça prend de créer un tel événement ?
Oh, un an. Bon, il faut reprendre contact avec les partenaires. Quel va être le thème de la soirée ? Quelles vont être les animations ? Le lieu ? Où est-ce qu'on le fait ? Voilà. Combien ça coûte ? Les fournisseurs ? Parce que le but aussi, c'est qu'on essaye aussi dans la soirée de gala de mettre en valeur aussi nos producteurs locaux. D'accord ? Donc, le repas, s'il peut être... les produits peuvent venir localement, c'est tant mieux.
Est-ce que c'est beaucoup de stress, une telle organisation ?
Non, parce que il faut pas prendre ça comme un deuxième job. Tu viens, tu te fais plaisir. Ah, c'est du boulot. Mais le stress, tu peux en avoir, mais il est cool, c'est pas un stress de boulot. Mais quand tu as des bonnes équipes, que tu choisis un bon bureau et tu as des membres formidables, ça avance tout seul.
Vous nous avez dit que vous étiez là depuis plus de 10 ans. Et quel est votre meilleur souvenir d'un gala ?
Tout c'était bien. Et après, j'ai eu des très bons souvenirs de soirées de gala, de congrès nationaux, internationaux, parce qu'il y a ça aussi. Voilà, il y a une convivialité, il y a comme dans tout, il y a des liens qui se créent. Et puis après, je suis resté en contact aussi avec plein de gens à l'étranger. Les clubs services, c'est ça aussi, c'est un réseau qui te permet, en toute simplicité, toute convivialité, de pouvoir échanger et rencontrer des gens.
Pour finir, est-ce que vous pouvez nous rappeler les principales informations du gala, donc la date, etc.
La date, donc c'est facile, c'est le 18 juin. Le prix, ça sera 80 euros. Et puis, pour l'instant, je ne peux pas vous communiquer les menus ni les animations, puisque tout ça est en cours.
Hein. Merci d'être venu pour répondre sur le gala et sur les kiwanis.
C'était vraiment un grand plaisir et merci à vous.
C'était un sujet autour de l'association Les Kiwanis.
Une interview réalisée par Marie, Axel et Julie
dans le cadre de la semaine de la presse et des médias à l'école. I'd like to have a
Bonjour à tous nos chers auditeurs et auditrices. D'élections présidentielles, tous les citoyens français, jeunes comme plus âgés, se sont engagés à voter pour le président qu'ils souhaiteraient voir à la tête du pouvoir français ces 5 prochaines années.
Pour ce faire, Claire, Ambre et Adrien, dans le cadre de la semaine de la presse et des médias à l'école, nous avons parcouru la ville d'Arras afin d'interroger des premiers votants, mais également des électeurs aguerris sur leurs premières expériences électorales, sur leurs convictions vis-à-vis du droit de vote, et sur leurs espérances quant à l'avenir de la France. Attention, ce reportage a été réalisé avant le premier tour du 10 avril.
Tout d'abord, écoutons une élève de terminale du lycée Robespierre, Ninon, interviewée par téléphone. Pourquoi allez-vous voter ?
Alors moi, pour ma part, si je vais voter, c'est tout d'abord parce que c'est un devoir citoyen, donc pour pouvoir exprimer notre citoyenneté. Par ailleurs, c'est également un combat qui a été mené à travers les époques, hein, parce qu'il faut se souvenir que le droit de vote n'a pas été acquis instantanément, entre guillemets, ou encore par d'autres moyens. La population a dû mener des manifestations, des combats vraiment pour que tout le monde puisse voter. Ensuite, ça permet également, moi, si je vais voter, c'est pour choisir justement la personne qui va être à la tête du gouvernement, ce qui, à mon sens, est assez important, étant donné que nous sommes dans une démocratie. Et rappelons-le, le droit de vote est l'un des éléments fondateurs, les plus importants de la démocratie. Donc, c'est pour ça que je souhaite faire mon rôle de citoyenne complètement, entièrement, entre guillemets.
Et votre famille ou vos amis ont-ils eu un rôle important quant à votre décision d'aller voter ?
Non, on n'a pas baigné, entre guillemets, dans la politique, mais c'est vraiment... c'est entre guillemets naturel. Enfin, on sait très bien que voter, c'est important. Donc moi, dès lors où je pourrais y aller, j'irai. Donc c'est pour ça. Après, est-ce que qu'il y a une raison bien particulière, bien spécifique, un élément qui m'a incité à le faire pas vraiment, mais c'est plutôt un devoir. Donc moi, j'y vais. C'est pas une aller voter. Je ne le vois pas non plus comme un calvaire ou quoi que ce soit. Contrairement à d'autres jeunes, je pense qu'ils eux trouvent que c'est dangereux à voir.
Et justement, est-ce que vous et votre famille, avez-vous les mêmes idées politiques ?
Oui. On a les mêmes idées.
Par quels moyens vous êtes-vous renseigné quant aux différents parts politiques qui existent ? Est-ce que les réseaux sociaux ont-ils joué un rôle important quant à votre prise d'information ?
Alors, les réseaux sociaux, moi je me documente, enfin, je me renseigne davantage sur tout ce qui est journaux. Donc, par exemple, Le Monde, matin, quand je suis dans le bus, je lis des articles. Je préfère tout ce qui est, entre guillemets, plus officiel plutôt que les réseaux sociaux, même si dans la campagne actuelle, on voit quand même que tout ce qui est numérique prend une ampleur assez conséquente. Mais je me suis davantage renseignée, notamment avec l'application Élise, qui permet de connaître les programmes des candidats, les candidats eux-mêmes. Donc ça, c'est pas mal. Après, de temps en temps, je vais sur le compte Instagram des candidats, mais sans plus.
Quand vous êtes-vous pour la première fois intéressé à la politique et y a-t-il eu un événement spécifique ?
Il n'y a pas vraiment eu d'élément déclencheur. je m'enseigne sur l'actualité, etc. Et pendant, lorsque j'étais plus jeune, bon, je suis pas non plus une vieille désormais, mais lorsque j'étais plus jeune, je regardais souvent aussi des infos sur France 2, TF1, tout ce que vous voulez, tout ce qui est journaux télévisés. Et je me souviens notamment des différentes des différentes élections présidentielles ou encore municipales. Donc, c'est plus quelque chose qui a évolué en fait. Au fur et à mesure où je grandissais, mais est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Pas vraiment. Là, je réfléchis et non.
Êtes-vous satisfait du mandat de Macron?
Oui, je suis plutôt satisfaite. Après, bien évidemment, comme tous les autres présidents, il y a des choses qui ne vont pas. Hein. De toute façon, je pense que la personne parfaite n'existe pas. Mais oui, en général, ça a été un bon mandat. Après, avec les précédents présidents, ça a été plus compliqué. J'étais un peu plus jeune, donc j'ai moins eu de recul. Mais là, avec Emmanuel Macron, oui, moi, je ne vois pas non plus de points noirs dans son mandat.
Et suite aux élections, quel changement voulez-vous voir apparaître en France?
Peut-être la part des citoyens pour aller voter, parce qu'on voit quand même que le vote chez les jeunes a tendance à la volonté d'aller voter. Pour les jeunes, on a tendance à s'amenuiser. Hein, quand on voit quand même, notamment moi dans ma classe de terminale, où ce matin on en a discuté justement avec une personne, et pour elle ne désire pas aller voter. Alors, pour quelle raison, elle ne le sait pas. Mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait davantage de mouvements, d'explications autour du vote, de l'importance justement d'une telle action. Après, dans tout ce qui est décision politique, là, par contre... Je ne sais pas trop, sincèrement, mais moi, c'est vraiment axé sur l'importance de la citoyenneté, donc qu'elle soit française ou européenne. Après, je lisais un article, donc une fois encore dans le journal Le Monde, qui était assez intéressant et qui exposait le fait que les jeunes, de nos jours, préfèrent les mouvements aux élections. Et moi, ça m'a quand même marqué.
I'd like to have a democracy.
Maintenant, écoutons une élève de première année en fac de droit à l'université d'Artois, Madeleine, interviewée en visio.
Alors, tout d'abord, parce que déjà c'est ma première élection, hein, donc il faut savoir que j'ai eu 18 ans l'année dernière, donc en août. Et donc, en fait, c'est super important, du coup, pour moi d'aller voter, étant donné que, déjà, les femmes, on n'a pas eu notre droit de vote avant un bon moment. Alors, du coup, je pense que c'est important de se représenter. Je veux dire que c'est plutôt ma grand-mère qui m'a quand même influencée. Parce que, disons qu'elle, elle était très... au départ, en fait, elle est née en 35. Et du coup, en fait, sa mère, elle s'est battue, en tout cas, pour avoir le droit de vote. Et du coup, c'est vrai qu'elle nous a toujours dit, elle nous a toujours dit, je sais pas, ouais, c'est super important d'aller voter. Enfin, on n'avait pas ces droits-là avant, justement, et donc, c'est vraiment hyper, hyper important. Et même, en général, je pense que c'est, on a le droit de le faire, donc c'est un des droits, donc il faut vraiment en profiter.
Vous et votre famille, avez-vous les mêmes idées politiques?
On va dire que c'est difficile à dire, mais oui, je pense qu'on est à peu près sur la même longueur d'onde, même si c'est pas spécialement le sujet avec lequel on parle tout le temps, mais en seconde, hein, c'est sûr qu'on partage à peu près les mêmes avis.
Par quels moyens vous êtes-vous renseigné quant aux différents partis politiques qui existent?
Alors, disons que j'ai beaucoup d'articles, moi je lis énormément d'articles, surtout Le Monde, La Voix du Nord, tout ça, hein, vraiment je lis beaucoup et c'est vrai que pour moi c'est bien de s'informer sur des journaux comme ça et tout, vraiment ils m'expliquent bien, donc c'est là où on peut vraiment bien cerner les choses et les cours aussi qui aident pas mal.
Les réseaux sociaux ont-ils joué un rôle important quant à votre prise d'information?
Alors les réseaux sociaux, en soi, mais non, parce que... je pense que dans les réseaux sociaux, il y a certes maintenant les politiciens qui s'y mettent énormément, même les opposants de politique d'Emmanuel Macron, maintenant ils s'y mettaient aussi sur les réseaux sociaux parce que justement l'objectif c'est de toucher un maximum les jeunes quand même. Et donc disons qu'en fait les réseaux sociaux c'est à prendre et à laisser en fait pour les informations sur les partis politiques parce qu'ils veulent montrer ce qu'ils veulent bien, ce qu'ils veulent qu'on voit. Quoi. Donc, c'est compliqué. Là, c'est compliqué à gérer, mais il vaut mieux lire, je pense, des articles plus neutres, etc. Alors, et surtout Le Monde, je trouve que c'est bien. Ça prend pas spécialement un parti.
Quand vous êtes-vous intéressé pour la première fois à la politique et est-ce qu'il y a eu un événement spécifique?
Alors, je pense pas qu'il y ait eu des événements spécifiques, mais c'est surtout depuis que j'ai pris l'aspect géopolitique. En fait, disons que ça m'a permis, je l'ai faite en première, et je trouve qu'elle m'a permis énormément de choses, en fait, vraiment de bien cerner l'histoire d'un pays, le comment, du quoi, le parti politique est arrivé là, etc. Et je trouvais ça très intéressant, et je sais que du coup, il y aura probablement des secondes qui vont regarder l'article, tout ça. Et juste, franchement, si vous êtes un peu perdu, enfin, ou si genre vous êtes curieux avec la politique, mais vous ne savez pas trop où vous orienter et savoir à peu près pour qui voter, etc. Et je pense que c'est bien de faire la TP à partir de la première. C'est vraiment bien parce que c'est enrichissant, on apprend plein de choses et vraiment, c'est que du bénéfice.
Pour vous, voter est-il un acte militant ou citoyen ?
Citoyen. C'est un droit, donc on va dire qu'il n'y a pas tous les pays qui ont non plus ce droit aussi, faut le savoir. Hein. Maintenant, il n'y a pas vraiment les gens n'ont plus la capacité de pouvoir élire leurs représentants, etc. Et donc je pense que c'est un acte citoyen, en fait, tout le monde devrait le faire parce que c'est hyper important.
Et êtes-vous satisfait du mandat de Macron ?
Alors, franchement, je suis un peu partagée, en fait, parce que bon, il y a eu quand même beaucoup de polémiques hein, avant Covid, il y a quand même eu les Gilets jaunes, on le rappelle. Donc c'était déjà même au niveau des retraites, je pense que la considération des personnes et tout en situation de retraite, c'est vraiment pas passé du tout. Pour les jeunes, je pense qu'il a fait des bonnes choses. Le pass culture, par exemple, genre c'est bien. Après bon, dans ma filière, c'est un peu gênant parce que je suis en fac d'anglais, compliqué parce que les livres, ils sont pas forcément vu que c'est des livres en anglais, bah le pass culture, il le fait pas, c'est que des livres pour le français, etc. Donc en vrai, c'est pas toujours. Mais en vrai, c'est bien, je trouve, d'avoir pris considération des jeunes. Mais je pense que maintenant, il faut quand même prendre considération aussi de nos ancêtres et nos aînés. Et je pense que là-dessus, je pense qu'il n'a pas été au top, enfin, selon moi. Et même niveau emploi, etc. Il donne beaucoup pour les jeunes, mais par exemple, ceux qui veulent faire des reconversions, etc. C'est compliqué aussi pour eux de s'insérer dans une nouvelle vie professionnelle, etc. Et puis maintenant, bon, il y a aussi plein de choses, le carburant, il y a les taxes qui augmentent, etc. Beaucoup de choses. Et donc là, je pense que vouloir remédier à avoir un bon président qui est capable de prendre tout ça en considération, le pouvoir d'achat, et aussi être capable d'avoir de bons arguments, surtout face à la situation qu'on connaît avec la Russie et l'Ukraine. Là aussi, je pense que ça va être un enjeu déterminant aussi pour les élections. Etc. Ça va être important aussi, il va falloir trouver quelqu'un de vraiment... vraiment correct et qui puisse pouvoir rester à la fois neutre mais à la fois être dans la protection et pas dans la provocation, etc. Parce que bon, on a quand même face à un allié assez important et il faut faire attention.
Et du coup, bah, ça rejoint un peu ce que vous dites suite aux élections. Quels changements voulez-vous voir apparaître en France et notamment avec ce qui se passe là entre la Russie et l'Ukraine ?
Bah, je pense que là, il va falloir... essayer que bah, d'être plus enfin faire plus de considération pour les gens, etc., avec le pouvoir d'achat notamment, j'ai dit précédemment, avec le prix du carburant, etc. Il va falloir vraiment aider les jeunes, il va falloir également les aider, les étudiants, etc., toujours les aider un maximum leur donner des aides le plus possible pour les jeunes qui voient des difficultés pour se réorienter, etc., et puis qui voudraient s'insérer dans la vie professionnelle, etc. Il faudrait aussi les prendre en considération. Aussi bah, aider les gens aussi et bah, essayer d'être un minimum, je vais pas dire charismatique, mais presque quand même pour avec l'allié, avec le fait à la Russie, etc. Et mais pas trop s'attirer, je pense, des ennuis pour l'instant et rester, entre guillemets, rester un peu à notre place, etc. pour l'instant, parce que à mon avis, ça risque d'être problématique pour la suite.
I'd like to have a...
Pour finir, écoutons quelques micro-trottoirs pour avoir le ressenti de quelques électeurs éventuels.
I'd like to have a... Thank you.
C'était un reportage réalisé par Claire, Ambre et Adrien, élèves du lycée Baudimont, dans le cadre de la semaine de la presse et des médias à l'école.